Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio Campus pour une heure de politique avec l'émission Panthère Rouge présentée par Lise et Claire au micro et aux manettes. En 1803, Napoléon instaure le livret ouvrier. On y fait figurer la date d'entrée dans l'entreprise, puis la date de sortie. Ce livret est également une sorte de passeport, puisqu'il est nécessaire à l'ouvrier pour pouvoir voyager. Sinon, l'ouvrier est réputé vagabond et condamné comme tel. Il ne peut quitter un employeur qu'après que celui-ci eut signé le livret, la signature devant être certifiée par une autorité, et ne peut quitter une commune sans le visa du maire ou de la gendarmerie, avec indication du lieu de destination. À cette époque, les syndicats sont formellement interdits. Et le livret contient d'ailleurs un paragraphe le rappelant, je cite « Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester après ou avant certaines heures et, en général, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de 3 mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. » Le livret est ainsi également utilisé par les patrons pour indiquer si l'ouvrier fait de l'agitation ou si, au contraire, c'est un ouvrier modèle servile à souhait. Voilà donc ce qu'est le livret ouvrier, terrifiant outil de contrôle de l'ouvrier au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est le livret de compétences que Luc Chatel veut instaurer dans les lycées. N'est-il pas en train de nous réchauffer une recette de flicage vieille de plus de 2 siècles ? Lui qui prend la réduction des cours d'histoire au lycée, n'a-t-il pas tiré les leçons de l'histoire en sa faveur ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Nous recevons Valentin, qui est lycéen mobilisé contre les réformes du lycée. Nous aurons également Hélène Bertrand, professeure d'histoire au lycée. Nous discuterons avec eux des différentes réformes du lycée et du lien avec la masterisation, la réforme mise en place par Pécresse dans le supérieur, mais qui est clairement liée à la question des lycées et collèges. Après cela, on fera un petit retour sur les mobilisations de l'année 2009. Et enfin, dans la rubrique Femmes super-héros, on vous présentera la vie d'Alexandra Kollontai. Bonjour belle gosse, ça touffe ?
Grave, c'est mon retour au collège.
Et surtout au lycée, tu as pour mission de tout nous expliquer sur les réformes Chatel en interviewant nos invités, en particulier Valentin.
Alors bonjour Valentin.
Bonjour.
Valentin, tu es lycéen au lycée Blaise Pascal et tu étais déjà venu l'année dernière à notre table ici pour nous parler de la réforme d'Arcos. Cette année, tu viens pour nous parler de la loi de ce bon Chatel qui d'ailleurs est venu vous rendre visite il y a pas très longtemps,
tout à fait.
Il me semble. Donc, alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette réforme ?
La réforme Chatel, qui est de toute façon dans la lignée de celle de M. Darcos, c'est d'abord 80 000 postes supprimés d'ici 2012. Donc c'est pour faire de l'économie dans l'éducation nationale, parce que la politique du gouvernement en Afghanistan ou ailleurs, ça coûte cher. Mmh. Donc c'est à l'éducation sur le dos des lycéens.
Faire des économies.
Voilà, donc c'est donc évidemment, ce que ça implique, c'est un nombre d'élèves beaucoup plus important par classe. Et donc à partir de ce moment-là, il faut aménager forcément les emplois du temps pour continuer tout de même à étudier dans cette logique. Donc, cette réforme, pour l'instant, c'est assez flou. C'est pas encore très bien décidé, mais on sait déjà qu'il y a une suppression de l'histoire géo en terminale S, qui devient donc une option facultative. On a aussi cette possibilité de changer de filière, donc de passer, de rattraper en quelques jours des programmes de mathématiques, de littérature, ou d'économie. Pour tout ça, donc, pour à terme remplacer le bac par le livret de compétences. Alors, donc, ce livret de compétences, c'est un véritable flicage, ni plus ni moins, puisque...
Et c'est quelque chose qui commence à la seconde, c'est ça ou...
Voilà.
Et on y met quoi sur ce livret de compétences?
Sur le site du ministère, on peut consulter, c'est écrit que ce sera relevé donc, dans ce livret de compétences, entre autres, l'activité du lycéen au sein de son établissement. de comment ils s'engagent dans l'établissement, dans l'administration. Donc je pense que...
Oui, on n'y met pas que les notes, on y met aussi...
Non, voilà, c'est les notes, bien sûr, et puis évidemment les appréciations de l'administration. Donc ça va de soi que les élèves qui seront engagés contre les réformes, qui ont bougé, ils seront immédiatement sanctionnés. Et ce sera écrit dans leur livret de compétences. Et ça, pour trouver un travail, c'est pas forcément...
Ouais, parce qu'après, les...
Les employeurs ont sous les yeux...
Les employeurs ont accès à ce livret de compétences. Et ils pourront savoir si c'est des bons lycéens. Enfin, si ça a été des bons lycéens ou des mauvais... des moutons noirs, en fait.
Voilà, tout à fait.
Mais alors, pour l'histoire géo, parce que moi, j'ai entendu que... du coup, ils allaient en mettre plus en seconde et en...
Oui, voilà, pour
en première.
En première S et puis dans les autres premières d'ailleurs, ils veulent faire passer le taux à 4 heures les heures d'histoire géo. Mais c'est de toute façon, c'est quelque chose de... Je vois pas pourquoi il faut mettre 4 heures, il faut faire passer, il faut qu'on compte que les terminales S puissent continuer à étudier l'histoire géo parce que le programme s'arrête en première avant 1945. Or, c'est toute cette période qui se passe après qui est importante, donc c'est pas...
Visiblement,
en
bourrant
4 heures, parce qu'en plus, donc ça, les S passeront une épreuve anticipée au baccalauréat d'histoire géo, donc la personne après va prendre cette option en S. Donc
Puis c'est 4 heures, mais c'est quand même moins que ce que été si...
Et puis la solution, c'est pas de bourrer les heures d'histoire géo en bourrant les emplois du temps. C'est faut étaler, faut que... on puisse continuer jusqu'à même en terminale, quoi. C'est quelque chose d'important quand même, surtout l'histoire géo.
Ça va permettre... Pour parler, tu me disais tout à l'heure que du coup, ça permet aux lycées, certains lycées, ils vont continuer à faire des cours, et puis d'autres lycées, ils n'ont pas les moyens. Enfin, par rapport au bac, justement, si ce livret de compétences remplace le bac, c'est...
C'est une mise en concurrence directe des lycées entre eux, parce que c'est évident que tous les lycées ne pourront pas se munir de toutes les options, donc il y aura... largement développer une éducation en deux vitesses où il y aura les bons lycées avec les bonnes options, les bons profs et donc lycées privés surtout et les autres lycées qui seront de plus en plus désertés, quoi. Et on l'a bien vu, c'est dans cette logique ce que M. Sarkozy a énoncé, c'est-à-dire des milliards d'euros pour quelques universités et universités scientifiques et rien pour les autres.
Ouais, donc on fait des économies sur l'éducation publique et on comprend du coup que on n'aura pas le même diplôme en sortant du lycée, quoi. Ceux qui sortiront du lycée privé ont un meilleur livret, en gros.
Voilà.
C'est, d'accord. Et donc pour parler globalement, tu parlais des universités aussi. Parce qu'il y a une autre réforme, c'est ce qu'on appelle la masterisation. C'est le concours...
c'est le concours enseignant qui s'obtiendra avec un master après avoir le concours. Donc ceux qui sont arrivés au bout de leurs études mais qui n'auront pas le concours font office de main-d'œuvre précaire qui seront remplaçants et pas titulaires. Donc ce sera de la main-d'œuvre précaire une nouvelle fois pour le gouvernement. Et on voit que cette réforme... cette masterisation du concours est liée évidemment avec la réforme du lycée, puisqu'il s'agit de paupériser une partie de la population et de la jeunesse pour en faire une main-d'œuvre corvéable pour le patronat.
Parce que, en fait, c'est le concours qui sera très difficile à avoir. On comprend bien qu'il y aura moins de personnes qui auront le concours que de postes à fournir. Et donc, du coup, on va employer des gens qui n'ont pas le diplôme avec des CDD ou des...
Voilà. Puis il y a la suppression aussi de l'année de stage qui est... c'est quelque chose qu'il faut développer parce que un professeur devant... il faut qu'il puisse avant de... Le métier d'enseignant, c'est pas quelque chose de théorique, il faut aussi de la pratique et cette pratique est complètement zappée par cette réforme.
Mais de tout ça, on va en parler tout à l'heure, on va développer avec Hélène. Et j'aimerais un peu de revenir sur ce bon ministre qui est venu vous rendre visite.
À Blaise Pascal.
Il s'est passé quoi ce jour-là?
Ben, On a été donc, enfin moi j'étais convoqué parce que je suis délégué titulaire et délégué au conseil d'administration. Donc on a reçu la lettre de convocation, je crois, mardi et puis il est jeudi. Donc on a ceux qui étaient mobilisés, donc on a rameuté tout le monde pour voilà pour créer un rassemblement. Et donc le ministre a quand même réussi à rentrer en passant par la porte, une autre porte.
Mm.
Et nous on était bloqués dehors par des CRS. Mais finalement on a pu rentrer en passant par la faculté. Et voilà, donc là, à partir de là, on s'est quand même fait bloquer par les CRS devant...
Par des CRS, quoi. Ils
sont et tous les CRS sont rentrés dans le lycée.
Mm.
Et du coup, on s'est fait quand même bloquer. Mais je pense que c'était quand même positif, parce qu'on a eu un impact, vu qu'il y a eu la sonnerie de la pause quand on était dans la cour. Du coup, tout le monde est sorti, on a pu exprimer nos revendications. Et voilà.
Et dans ton lycée, ça, vous en parlez un petit peu quand même de cette réforme
Blaise Pascal, non, pas vraiment. Blaise Pascal, c'est vraiment le lycée, c'est très difficile à mobiliser. Mais voilà, on essaie quand même de faire repartir le mouvement pour ces années, parce qu'on a réussi l'année dernière à obtenir le report de cette réforme. Et cette année, justement, nous voulons obtenir le retrait.
Ouais. D'accord. Oui, il y a eu quand même une petite victoire l'année dernière, mais on voit qu'il continue à attaquer encore et encore. Et bon, on va faire une pause musicale et ensuite on retrouvera Hélène qu'on va appeler.
I said it's the only thing I could have to write, and now they turned it all wrong. Look what they've done to my song. Look what they've done to my brain. A chicken bone, and I think I'm half insane, Ma. Look what they've done to all my sons. Well, I wish I could find a good book to live in. I wish I could find a good book to live in. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look to what they've done to my song. Maybe it'll be all right, Mama. Maybe it'll be all right, Mama. Well, if the people are buying tears, I'll be rich someday, Ma. How about that? Look what they've done to my son. Look what they've done to my son, Mama. Oh, pray me. What they've done to my son. They tied it up in a plastic bag and turned it upside down, Mama. Look what they've done.
Alors, on est toujours sur Radio Campus, l'émission Panthère Rouge, l'émission politique de Radio Campus. On parle aujourd'hui de la réforme de l'éducation secondaire et supérieure. On a interviewé Valentin et là, on va appeler Hélène. Alors, est-ce qu'on a Hélène ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, ça va ?
Oui, ça va, oui.
Alors, Hélène, tu es professeure d'histoire en lycée,
oui.
À Lyon.
Oui, oui.
Et donc, on voulait parler un petit peu du livret de compétences. Alors, j'ai lu un article dans un magazine qui s'appelle L'Insurgé, qui compare le livret ouvrier qu'on a présenté en introduction avec le livret de compétences. Alors je me demandais comment on pouvait, quels étaient les éléments de comparaison de ces deux.
Entre le livret ouvrier du 19e siècle et le livret de compétences que veut proposer, que Sarkozy propose d'étendre aux lycéens.
Voilà.
C'est ça. Alors, il faut d'abord savoir que le livret de compétences, il a été introduit à l'école primaire et au collège par un décret d'application de la loi Fillon qui a été votée en 2005.
Mmh.
Et Sarkozy, en octobre et puis en novembre, a expliqué qu'il allait l'étendre aux lycéens, qui en particulier dans son intervention, il a dit qu'on allait évaluer le charisme, l'attention aux autres, le sens du travail en équipe, les capacités à prendre des responsabilités dans le monde professionnel des lycéens,
oui.
Et que ça serait inscrit dans leur livret de compétences. Et que ça compterait beaucoup plus qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on va aider les lycéens à faire un CV. Donc ça veut dire que si on commence à faire un CV au lycée,
on
se situe immédiatement dans le monde professionnel.
Mmh.
Et jusqu'à présent, au lycée comme au collège, les connaissances étaient évaluées en fin d'année ou tout au long de l'année et avec des diplômes qui avaient une valeur nationale comme le brevet pour les collégiens ou le bac, qui est le premier diplôme universitaire pour les lycéens. Et ce diplôme, ils évaluent les connaissances disciplinaires, c'est-à-dire les notions, les concepts, les savoir-faire d'une discipline. À l'échelle nationale, tout le monde a la même composition au bac, en histoire, en maths, en physique, etc.
Ah, le diplôme, c'est le même à la fin.
Et le diplôme, si on est titulaire d'un diplôme à Lyon, ou à Clermont-Ferrand, ou à Paris, ou à Lille, si on a le bac... Eh bien, ce bac, il a la même valeur nationale et il permet de s'inscrire à l'université.
Et puis, indépendamment du comportement de l'élève en cinquième.
Tout à
cinquième.
Fait. Il peut y avoir des élèves, des adolescents qui font une crise, etc. Ils sont sanctionnés. Ils peuvent même être exclus du lycée. Moi, j'en ai eu un l'année dernière. Eh bien, il a passé le bac ensuite en candidat libre et certains ont le bac. Donc, ils sont évalués comme les autres. Et on ne tient pas compte de leur dossier disciplinaire, en quelque sorte, lorsqu'ils passent le bac. On ne tient compte que de leur niveau de connaissance et de leur capacité à réaliser les épreuves qui sont les mêmes pour tout le monde.
Oui, parce que ça fait un peu peur quand même l'idée de juger le comportement des élèves. Parce que je suis sûre que Valentin, qui est à côté de moi, qui est militant, il aurait des très mauvaises appréciations sur son comportement. C'est ça aussi, quoi. C'est de pouvoir contester dans son lycée, par exemple.
Il est bien évident que dans les responsabilités dont parle Sarkozy dans son intervention, on évaluera les capacités d'un lycéen à faire, par exemple, du bénévolat auprès de ses camarades ou auprès de personnes âgées, mais les initiatives de lycéens, tenir une assemblée générale... participer à une mobilisation, évidemment, ça sera sanctionné et ça sera absolument pas valorisé. Donc évidemment, c'est une évaluation du comportement qui va s'inscrire de plus en plus et non une évaluation des connaissances.
Ouais, c'est en ça que ça rappelle un peu, pour revenir sur le livret ouvrier, où les patrons marquaient si l'ouvrier avait un bon comportement ou un mauvais comportement.
Tout à fait. Au XIXe siècle, ce livret, je crois qu'il est mis en place en 1803. Et ce livret ouvrier, il est délivré par le commissaire de police ou un maire. Et tout salarié qui voyage doit être muni de son livret. Sinon, il est réputé être vagabond. Et donc, quand il arrive dans une ville ou quand il part d'une ville, il doit le faire viser à la mairie. Et en plus, ce livret, il doit le soumettre à son employeur. Mmh. Alors, l'employeur peut noter, évidemment, sa façon de travailler dans le livret. Il peut noter aussi sa qualification, mais il peut noter sa façon de travailler. Et souvent, en plus, comme les salaires étaient très faibles, les ouvriers, le patron faisait crédit à l'ouvrier. Et l'ouvrier ne pouvait pas partir tant qu'il n'avait pas remboursé, tant qu'il ne s'était pas acquitté de sa créance. Et c'était un moyen, y compris pour le patron, d'empêcher l'ouvrier de partir, parce qu'il incitait l'ouvrier à emprunter plus, et tant que l'ouvrier n'avait pas remboursé, il ne pouvait pas partir. Donc évidemment, c'était un véritable livret de police, un véritable fichier de police.
Ouais, et puis un CV aussi, du coup.
Pardon ?
Un CV un peu, si un ouvrier voulait se présenter dans une entreprise.
C'était un peu un CV, mais aujourd'hui, disons que pendant les dizaines d'années qui nous ont précédées, les salariés ont obtenu de remplacer le livret ouvrier par ce qu'on appelle les qualifications et les grilles de qualification. Et ces grilles de qualification, elles sont liées au diplôme. Par exemple, on est ouvrier qualifié si on a un CAP. Et donc, il y a une hiérarchie des diplômes, le CAP, le BEP, le BAC, qui est la clé de voûte de tous ces diplômes. Et puis, on peut avoir BAC plus 3, une licence, BAC plus 5, aujourd'hui un master. Et selon le niveau du diplôme, les grilles de qualification dans l'industrie, elles sont organisées en fonction de cela. Et elles sont codifiées par ce qu'on appelle des conventions collectives, c'est-à-dire des accords à l'échelle de chaque branche, par exemple dans la métallurgie, dans le bâtiment, signés entre les employeurs et les syndicats. Et pour une même qualification, normalement, les ouvriers ou les salariés ont un même niveau de salaire. Un maçon, à Lille, il doit avoir le même niveau de salaire, peut-être pas exactement, mais le même niveau de salaire qu'un maçon à Lyon ou qu'un maçon à Bordeaux. Et c'est la même chose pour la fonction publique, c'est-à-dire que dans la fonction publique, c'est le statut des fonctionnaires, et donc il y a des catégories, catégorie A, niveau licence, catégorie B, niveau bac, catégorie C.
C'est une sécurité, on a un diplôme, on a un salaire, quoi.
Alors que on a un certain niveau de salaire.
Voilà, on a un niveau de salaire. Alors que là, ça devient complètement arbitraire, quoi. C'est... On n'a pas un vrai diplôme, on est jugé sur des comportements. Enfin, il n'y a pas moyen de défendre en fait le salaire qu'on mérite. C'est, si on n'a plus de diplôme équivalent, enfin de diplôme respecté.
Tout à fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect policier, et puis le fait que pour une même qualification, on puisse prétendre au même salaire, ça limite la concurrence entre les salariés, et donc ça garantit un même niveau salaire pour la même qualification. Par exemple, une infirmière qui travaille dans un établissement scolaire, elle est payée le même salaire pour la même ancienneté sur tout le territoire français. De la même façon, pour un professeur agrégé avec la même ancienneté, il est payé avec le même salaire sur l'ensemble du territoire. À partir du moment où on va, détruire ce système de qualification, il y aura une très grande concurrence. Et là, le comportement va beaucoup compter. Évidemment, le professeur le salarié du privé qui aura un comportement qui sera jugé mauvais par son patron, son salaire va diminuer. Alors, pour quelques-uns qui seront mieux payés, la grande masse sera moins bien payée.
D'accord. Alors, on voulait parler aussi de la masterisation.
Oui.
Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu les réformes qui va y avoir sur ce qu'on appelle la masterisation
La masterisation, c'est la façon de recruter les profs. Jusqu'à présent, donc, les profs sont recrutés par concours.
Après une licence
Niveau licence pour les capétiens ou niveau maîtrise pour les agrégés. Et ce concours, il est organisé à l'échelle nationale. Et quand on réussit un concours, on devient fonctionnaire stagiaire, c'est-à-dire que pendant un an, on est en formation. Pour les professeurs, ils faisaient 6 ou 8 heures de travail dans un établissement, dans un lycée ou un collège. C'est-à-dire à peu près un tiers du service d'un prof certifié. Et le reste du temps, ils avaient une formation pédagogique, une formation professionnelle à l'IUFM. Et lorsqu'un candidat réussit le concours, il y a un engagement de l'État l'État l'embauche, et il l'embauche à vie en quelque sorte.
Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop, l'État, en ce moment.
Non.
D'accord.
Et alors aujourd'hui, ils veulent modifier ce système pour aboutir, parce que l'objectif à terme, pas demain matin, mais à terme, c'est d'en finir avec le statut de fonctionnaire pour les professeurs, mais pas uniquement pour les professeurs d'ailleurs. Mm. Par exemple, en Italie, les enseignants ne sont plus fonctionnaires, en Suède non plus. Mm. Ils ont un statut qui ressemble au statut du privé. Et globalement, évidemment, l'État fait beaucoup d'économies. Alors, entre cet objectif et puis aujourd'hui, eh bien, il y a ce nouveau type de recrutement qui s'appelle la masterisation. Et Sarkozy a fait le lien, d'ailleurs, très étroit entre cette nouvelle façon de recruter les profs et puis la nouvelle organisation du lycée. Parce que les deux aboutissent justement à détruire les qualifications. Alors, pour présenter brièvement, le gouvernement dit qu'il va y avoir une élévation du niveau de recrutement. C'est-à-dire que les enseignants seraient recrutés sur la base d'un Master 2. Mmh. En réalité, ce n'est pas si simple et c'est faux. Parce que les masters, ils vont être redéfinis. Et avec l'autonomie des universités, eh bien, il y aura autant de masters que d'universités. Et les masters d'enseignement, ils pourraient ouvrir à l'enseignement ou bien à une autre profession ou bien à la recherche. Mmh. Donc ils vont être très polyvalents et ils vont répondre ni à la recherche ni vraiment à l'enseignement, quoi.
Oui, c'est des trucs très vagues, qui finalement, enfin des diplômes qui
sont durs à comprendre. Le contenu disciplinaire de ces masters, il va être appauvri. Compte tenu de cette polyvalence, appauvrie en enseignement disciplinaire, en notions donc disciplinaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ça, c'est un premier aspect. Mmh. Il y a un deuxième aspect, c'est qu'il y a une mise en cause du recrutement par concours. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les professeurs qui passent, enfin les étudiants qui passent les concours, ils passent au minimum 3, 4, parfois 5 épreuves à l'écrit et ensuite plusieurs épreuves à l'oral. Et aujourd'hui, il va y avoir une réduction du nombre des épreuves. Mmh. Donc, moins d'exigences disciplinaires. Et de plus, les étudiants vont passer ce concours en M2. Et en même temps qu'ils préparent le concours en M2, ils devront valider leur M2, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une année absolument horrible.
Ouais. Et il faut qu'ils fassent un stage en même temps.
Oui, ils devront à la fois, disons, passer les examens du M2,
ouais,
faire un stage, préparer le concours. Donc ça va être une situation impossible.
Très difficile, disons.
Très difficile, oui.
Ouais. Donc l'idée, c'est qu'il y ait le moins de personnes possible qui puissent avoir ce concours un peu.
Tout à fait. Parce que le gouvernement a prévu, dans les années à venir, il a déjà réduit de façon considérable le nombre de postes de fonctionnaires. Mmh. À la rentrée 2009, par exemple, il y a 16 500 postes en moins. Et il a prévu de réduire petit à petit le nombre de postes au concours. Mmh. Pas dans les deux prochaines années, mais ensuite.
Et du coup, parce qu'on a besoin de personnes qui fassent l'enseignement quand même.
Oui.
Donc du coup, ils recrutent... Enfin, il y a bien des gens qui enseignent quand même s'ils n'ont pas le concours.
Bien sûr.
C'est l'idée.
Donc, dans le cadre de cette réforme, il est prévu qu'un étudiant en M2, il devra, pour valider son M2, faire 108 heures de stage dans un établissement scolaire. Mais ce stage, ça veut dire qu'il aura à sa charge une ou plusieurs classes et il devra faire les cours tout seul.
Tout seul,
sans aucune formation. Mmh. S'il ne fait pas ce stage, ces 108 heures, eh bien, il ne pourra pas valider son M2. Donc, il est obligé de les faire. Mmh. Le deuxième aspect, c'est que ces étudiants iront faire des cours sans être formés. Et on estime que ça économise chaque année environ 8000 postes. Mmh. Il y a un deuxième aspect, c'est que ces étudiants en master, ils coûteront très peu cher. C'est-à-dire qu'ils seront payés 3000 euros s'ils font les 108 heures. Peut-être qu'ils en feront moins, mais s'ils font les 108 heures, ils seront payés 3000 euros. ça fait 34,30 € brut de l'heure. Bon, et un professeur, on estime que lorsqu'un professeur fait une heure de cours, en fait, on lui compte 3 heures de travail.
Oui, puisqu'il faut préparer les
Tout
cours.
À fait.
D'accord.
Voilà.
Bon, mais on va être obligé de s'arrêter.
Oui.
Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée. Et puis, on va enchaîner sur une pause musicale. Merci, Hélène.
Voilà, bonsoir.
Et puis, au revoir.
Thank you.
Vous écoutez Radio Campus, l'émission Panthère Rouge. Donc, alors on passe maintenant à une partie complètement différente, puisqu'on avait envie de faire une sorte de bilan des différentes luttes qu'il y a eu cette année, en 2009. Un peu, voilà, c'est le genre de choses qu'on fait en fin d'année. Et donc, c'est ce à quoi je me suis attelée. Et finalement, il y a eu tellement de choses cette année que je ne vais pas faire un vrai bilan. Je vais juste parler de quelques...
Trop de choses à dire.
Bah oui, quelques événements qui me paraissent intéressants, majeurs. Alors au niveau international, celui qu'il faut garder absolument en mémoire, c'est le mouvement de grève des Guadeloupéens. Alors outre la durée et la détermination des Guadeloupéens, ce qui est remarquable, c'est leur capacité à avoir rassemblé toutes les franges de la société et surtout d'avoir formulé leurs 120 propositions. Alors qu'on avait l'impression que c'était impossible de dépasser notre triste sort et de formaliser un programme, en fait, ils ont su formaliser leurs revendications actuelles et c'était vraiment porté par la population. Donc ça, c'était vraiment chouette et c'est intéressant de voir ce qu'ils ont fait parce que ça permet de savoir c'est quoi le programme de transition aujourd'hui, enfin de savoir voilà, c'est quoi ce qu'on veut. Quoi.
Ouais. Et puis que ça sert de se mobiliser parce qu'à la fin, ils ont quand même... Ils ont gagné des trucs, quoi.
Oui, mais moi, je trouve que vraiment, sur la forme, c'était intéressant d'obtenir ces 120 propositions. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'il faut retenir. Mais bon, bref, donc je continue.
Parce qu'il y a plein de choses à dire, alors on continue.
Il y a un autre mouvement que j'ai beaucoup aimé. C'est, en fait, un mouvement qui a surpris tout le monde, c'est le mouvement des Iraniens et des Iraniennes. En fait, donc, en dépit de toute attente, il y a eu cette fraude électorale qui a pousser les gens dans la rue, sur lequel les gens se sont sentis vraiment choqués et sont allés dans la rue, mais ça a dépassé largement les revendications simples de la fraude électorale. Et très rapidement, ils ont remis en cause le régime, le système politique iranien. Et la ténacité des manifestants fut impressionnante alors que la répression était extrêmement dure, le régime n'hésitant pas à tuer les opposants. Et le rôle des femmes iraniennes était aussi assez inédit, assez surprenant. Alors que l'image de la femme voilée, donc soumise, leur colle à la peau, elles ont prouvé que sous leur voile, il y avait bien un cerveau avec une réflexion politique bien développée et qu'elles n'hésitaient pas à se mobiliser, à manifester.
Elles sont dans la rue.
Voilà, et puis... on en a parlé déjà sur Panthère Rouge et je vous renvoie à l'émission donc sur notre blog, sur Arte Radio. Vous pouvez réécouter où on a vraiment trouvé beaucoup d'informations et notamment des sites de filles super chouettes. Alors en France, les médias ont insisté lourdement sur les mouvements spectaculaires, oubliant de parler de nombreuses autres grèves. En fait, surtout à partir de mars, il y a eu sans cesse des mouvements qui naissaient, se renouvelaient sans fin. Des grèves ont affecté toutes sortes de secteurs, notamment EDF et GDF Suez à partir d'avril, des usines de textiles, d'électronique, de chimie, des laboratoires pharmaceutiques, des imprimeries, des centres d'appel et une série d'usines de sous-traitance de l'automobile. Et c'est notamment dans ce secteur qu'on a eu les mouvements les plus spectaculaires et médiatisés avec les entreprises telles que Continental, New Fabrice, Molex, Freescale, Caterpillar et Goodyear. Et j'aimerais qu'on revienne justement sur ces mouvements. Alors, tout commence avec le pacte automobile mis en place en février par l'État, Renault et PSA. Le but de ce pacte, c'était de former pour un tiers chacun un fonds de restructuration des équipementiers. Donc, autrement dit, organiser la suppression d'une série d'unités de production et donc détruire massivement les emplois. Alors ainsi, simultanément, dans les grandes entreprises d'assemblage, les directions de Renault et PSA ont licencié tous les intérimaires et ont pris des mesures plus ou moins consistantes selon les usines de chômage partiel pour le reste du personnel. Les salariés et les équipementiers se sont retrouvés rapidement en première ligne. Et chez Continental Clairoy, la mobilisation a commencé le 12 mars et n'est pas tout à fait terminée du fait de la condamnation au pénal de 6 grévistes et des peines de prison avec sursis et de lourdes amendes.
Donc ça continue toujours en fait.
Voilà. On commence bien l'année. Alors, initialement, la revendication chez Continental a été zéro licenciement. Mais étant donné qu'un vaste front de tous les équipementiers en lutte ne se constituait pas, rendant possible l'annulation de tous les licenciements, les travailleurs de Continental ont exercé leur pression sur deux points. Être payé encore pendant 2 ans et obtenir une prime de licenciement dite extra-légale de 50 000 euros. Et sur ces deux points, ils ont eu gain de cause. Ils ont largement gagné, quoi. Et cela sans aucune aide de la part des confédérations syndicales reconnues. Et en fait, c'est eux qui s'en sont le mieux sortis. Parce que donc il y a d'autres entreprises qui ont
écouté les
syndicats, les qui syndicats. Ont écouté Thibault. Et alors Thibault,
quelle drôle d'idée.
Donc pour Thibault, en fait, l'accent devait être mis sur l'idée de trouver un bon repreneur. Et donc c'est notamment ce qui s'est passé chez Molex. Ils ont écouté Thibault. Et alors donc chez Molex, la lutte s'est soldée par un échec cuisant. Aux dernières nouvelles, à peine 20 emplois seraient sauvés sur 283.
C'était quoi ? En fait, c'est qu'ils ont trouvé un... L'idée, c'était de retrouver un racheteur et...
Voilà, un repreneur.
Un repreneur.
Mais bon, en fait, c'est un peu bizarre aussi cette idée. Enfin, pour l'industrie automobile, étant donné les conditions, le contexte écologique, le contexte...
Économique, ouais.
En fait, l'histoire du bon repreneur, je sais pas, c'est un peu croire au Père Noël. Enfin, bref, Thibault...
Donc 20 postes sur...
283.
Oui.
C'est vraiment horrible, quoi. Finalement, dans les usines... où les grévistes sont orientés vers l'obtention d'indemnités de départ les plus importantes possibles, les salariés s'en sont relativement mieux sortis que là où ils cherchaient désespérément un bon repreneur, ou attendaient un peu trop des promesses mensongères du gouvernement. Voilà, donc il y avait Bernard Thibault qui en fait, n'a pas supporté ça. Il a eu des critiques fermes. En disant que ceux qui se battaient simplement pour les primes renonçaient à se battre pour le maintien des emplois, en gros que c'était des traîtres, mais enfin voilà, en fait si au final t'as rien, c'est sûr que c'est mieux d'avoir
une grosse prime que rien du tout.
Voilà, mais c'est vrai que en fait dans leur lutte, on peut se dire que c'est une lutte un peu, enfin je sais pas, une lutte de quelqu'un qui a rien à perdre, quoi. C'est pas une lutte pour sauver les emplois, c'est vrai, c'est une lutte pour gagner le maximum en sachant que tout est perdu, quoi qu'il arrive au final, quoi.
Mmh.
Voilà. Et en fait, ouais, c'est vrai que finalement, les luttes cette année, ça a été beaucoup ça, même si par leur organisation, par leur force, elles étaient chouettes, et c'était chouette de voir que finalement, tout se mettait en branle. Dans tous les secteurs, il y avait quelque chose. Par contre, c'était triste de voir que souvent, les gens étaient limités parce que le syndicat, les centrales syndicales ne faisaient pas leur travail d'union de ces secteurs. Au contraire, en fait, à chaque fois, c'était des combats isolés, quoi. Voilà. Alors, j'insiste un peu sur la CGT, mais donc il y a... Il y a le délégué syndical CGT chez Continental Clairoy le 17 août sur France Inter qui disait les Thibault et compagnie, c'est juste bon qu'à frayer avec le gouvernement, à calmer les bases. Donc vraiment, il y a eu une déception vis-à-vis des centrales syndicales. Voilà. Alors que conclure, la vision pessimiste, c'est que ce sont des luttes émiettées et désespérées puisqu'elles se soldent presque invariablement par des charrettes de licenciement. Les salariés les mènent dos au mur, sans renfort d'autres travailleurs, ni l'appui d'aucune centrale syndicale. Ce sont les ultimes actions et cris de rage poussés par des travailleurs voués à cette mort sociale qu'est le chômage. Et puis donc, je répète encore, mais la version optimiste, c'est de voir la multiplication de conflits qui se comptent par centaines et peut-être se dire que c'est peut-être le signe d'un réveil, des efforts de coordination des acteurs de ces luttes. Peuvent contribuer à un moment donné à déboucher sur un tous ensemble, une grève générale ou une explosion sociale salutaire. Alors un autre élément qui me semble vraiment très important pour ce qui s'est passé en France, mais qui est un peu atypique, c'est les suicides au travail.
Alors, c'est plus triste.
C'est encore plus... c'est clair que finalement, ma chronique, souvent, ça finit
bonne
bien.
Bonne année.
Voilà, mais là, elle est de pire en pire. Et c'est vrai, il y a eu énormément de suicides au travail. Et alors, c'est vrai que ce n'est pas une lutte à proprement parler. Et pourtant... D'après la sociologue Annie Thébault-Mauny, face à ce sentiment d'impuissance, le suicide peut apparaître comme un acte ultime de résistance, refusé de se laisser atteindre dans sa dignité au travail. Voilà, donc c'est vrai, c'est terriblement triste, mais je pense que ça fait partie des réactions de résistance. Un peu comme les kamikazes palestiniens, en fait, c'est pas une manière de résoudre les problèmes, mais d'un autre côté, on peut pas dénoncer, enfin... Bref, on ne peut pas leur en vouloir. Enfin, bref.
Ouais, non, voilà. Mais je trouve que c'est important cette notion de dignité parce que avec la crise économique, tout ça, ils essayent de nous faire croire qu'il faut tout accepter, que tout est acceptable. Mais en fait, on ne peut pas. Et c'est par cette dignité, parce que, qu'on, qu'on se révolte et qu'on, qu'on obtient des choses. Donc,
voilà. Et alors, je vais quand même faire une conclusion un peu optimiste. En fait, le fait de garder ça en mémoire, de garder donc, en mémoire ces mouvements de cette année, certains très forts, certains très inattendus, donc, en fait, le but, c'est pas de les reproduire à l'identique, mais un peu comme ce que disait Alain Bertrand pour le livret ouvrier et le livret de compétences, c'est de faire des liens avec des épisodes passés pour nous aider à comprendre la situation présente. Et surtout, c'est parce que la situation politique et sociale est de plus en plus dure pour les gens normaux, pas pour les patrons, hein, pour eux ça va, mais pour les prolétaires, pour les gens qui sont pas des gros capitalistes en tout cas. La situation est très dure et donc garder en tête ces mouvements et leur originalité stimule notre imagination à inventer de nouvelles formes de résistance, ce dont on aura besoin.
Bon, on enchaîne avec Souad Massi.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية أحكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
touche à sa fin, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir, Lise ? Dis-moi.
Alors tout d'abord, retenons ce que tu as dit. La réforme Châtel a deux buts principaux. Premièrement, vider le bac de son contenu actuel, développer le contrôle continu, liquider certaines matières, fliquer les étudiants.
Mais heureusement, il y a des lycéens...
Attends, et deuxièmement...
Ah oui, deuxièmement...
Faire des économies sur le dos des lycéens, réduire le nombre de postes d'enseignants.
Mais heureusement, il y a des lycéens et des enseignants éclairés et mobilisés, en particulier Valentin et Hélène Bertrand, que l'on remercie chaleureusement d'être venus nous expliquer ce dossier. On espère que leurs idées se propageront largement et que l'enseignement secondaire sera préservé.
Voilà, et alors moi j'ai également fait un retour sur les mouvements sociaux de cette année 2009. Ça fait du bien de se rappeler tout ça, ça émoustille notre imagination et il en faudra pour inventer toujours et encore les luttes de demain.
Alors cette émission a été réalisée par Claire et Lise. On a entrecoupé nos propos par quelques musiques de la médiathèque choisies par nos soins, notamment Nina Simone, Cora Jazz Trio, Swad Massi et... Et peut-être qu'on va écouter Bibio, mais c'est pas sûr. Ah, ça va. Bibio. Donc, on se retrouve. Vous pouvez réécouter nos émissions sur le blog audioblog.arteradio.com/panthère rouge, tout attaché.
Et nous écrire, en particulier si vous voulez être tenu informé des thèmes de nos prochaines émissions ou si vous avez des dates d'événements ou de manifestations que l'on peut ajouter à notre agenda. Vous pouvez nous écrire aussi pour le reste, les lettres d'amour ou de critique. Et notre adresse, c'est Panthère Rouge, tout attaché, 93.3 en chiffres, @gmail.com.
On se retrouve le 10 janvier, c'est-à-dire dans 3 semaines. Et oui, on a une semaine de vacances de radio. Et d'ici là, comme dit l'ami Colin, surtout ne lâchez rien.